Radio Flac, la refait par les lycéens et pour les lycéens. En direct du lycée de Seigne, sur Studio Z.
Bonjour à tous, auditeurs de Studio Z. Nous sommes au lycée de Seigne aujourd'hui, vendredi 20 avril. Il est 13h30, donc ça veut dire que nous sommes en direct pour 3 heures d'émission à l'occasion de la fête lycéenne des arts et de la culture. Rendez-vous régulier, rendez-vous annuel des lycéens. Et donc du coup, pendant ces 3 heures, on va parler de l'art, de la culture au lycée et par ceux qui la font. Hein, comme le disait le petit générique, ce sont ceux qui pratiquent qui vont s'exprimer aujourd'hui. Et pour m'accompagner toute l'après-midi, je suis avec une classe, en particulier la classe de seconde 5, à l'initiative de leur professeur de français, M. Guéchet. Ils ont préparé toute une sélection très variée de contenus, et je suis aussi avec eux en plateau pour animer l'émission et pour gérer la technique. Donc déjà, on peut commencer par les applaudir bien fort. Hein. Car oui, nous sommes en direct et en public cet après-midi. Et pour m'accompagner sur la première demi-heure, je suis avec Elisa. Bonjour Elisa.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, merci.
Alors pour cette première fois à la radio en direct, comment ça va?
Un peu stressé, mais ça va.
Ouais, t'inquiète pas, dans 10 minutes ça se finit et c'est que du plaisir après. Et donc je suis aussi avec Flavie qui va nous accompagner aussi sur cette première demi-heure pour poser des petites questions. C'est bien ça?
Oui, c'est ça.
D'accord. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Parce qu'on a des invités en plateau et en particulier, on a un invité qui est costumé.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les élèves sont costumés aujourd'hui, Flavie?
Parce qu'aujourd'hui, c'est le carnaval.
Voilà, c'est le dernier jour de la FLAC. Voilà. Et à l'occasion de ce dernier jour, les élèves sont costumés. Et donc, avec nous en plateau, nous avons un pingouin, on peut le dire.
Oui, un pingouin.
Bonjour, tiens, rapproche-toi un petit peu du micro.
Je tiens à dire que c'est un manchot.
Ah, pardon. Alors, très bien, tu fais la distinction. Tu peux nous expliquer la distinction entre un manchot et un pingouin, du coup?
Oui. Alors, déjà, il y a des différences de taille.
Oui.
Et une autre différence aussi, c'est que normalement, l'un sait voler et l'autre non.
D'accord, ok.
Donc, moi, je ne sais pas voler.
Tu ne sais pas voler, d'accord. Donc, tu es manchot.
Manchot, voilà.
Ok. Alors, vas-y, on t'écoute, du coup, Flavie.
Tu veux bien te présenter?
Ah oui. Bonjour, je m'appelle Étienne Chantaro, je suis en terminale L1, L pour littéraire.
Voilà.
Et je suis un manchot.
Est-ce que tu pourrais décrire ton déguisement pour les auditeurs?
Bien sûr. Alors, j'ai un gros déguisement. je suis rembourré de noir dans le dos et j'ai un... Il est tout noir en fait, mon déguisement. J'ai juste une grosse partie blanche sur moi. J'ai un collant noir en dessous pour faire les jambes, pour éviter de montrer mes jambes. J'ai des palmes qui recouvrent mes chaussures. Et j'ai une capuche qui fait le bec et les yeux et la tête du manchot.
Ok.
Et d'où t'es venue l'idée de te déguiser en manchot?
Le prix. Il y avait une promotion sur le site où je l'ai vu et j'ai fait « Ah, ça pourrait être marrant ». En espérant qu'il ferait chaud, et il fait chaud. Donc.
D'accord. Oui, c'est parfait en fait. Là.
C'est parfait.
Pour un manchot, les températures qu'on a aujourd'hui à Blois, c'est parfait.
C'est parfait. Il fait très très chaud en plus dessous.
D'accord.
En plus de l'extérieur.
Voilà. Ça marche. Une autre question du coup?
Voilà, c'est tout.
C'est tout? Ok.
Merci.
Super. Très bien. Eh ben, on vous garde en plateau puisque si tu viens... alors, tu viens pas uniquement nous parler de ton costume. Je crois aussi que tu avais autre chose à nous dire. Là, je vais peut-être laisser la parole à Elisa, du coup, pour annoncer ce qu'on va écouter pour la suite.
Oui, donc on va recevoir une élève qui va nous présenter un peu le travail qu'elle a effectué avec ses camarades. Et voilà, donc je laisse la parole.
Et en l'occurrence, les élèves, ils sont en plateau avec nous, et c'est des élèves, on peut peut-être présenter un petit peu quels élèves, c'est pas n'importe quels élèves.
C'est des élèves faisant partie de la section théâtre.
D'accord.
Et ils vont nous présenter un peu ce qu'ils ont fait, et voilà.
Ok. Et donc, du coup, on redonne la parole à Flavie, puisque oui. C'est elle qui est aux questions, encore une oui. fois, pour poser des questions aux élèves sur la section théâtre.
Ah, sur la section théâtre, oui, c'est moi.
Ouais.
Pouvez-vous vous présenter, vous tous, puis la section théâtre en quelques mots aussi.
Alors, ils sont trois, on va faire un petit tour de table, ouais. Du coup. On peut, si tu te rapproches du micro, est-ce que tu peux te présenter, du coup, aux auditeurs?
Oui, bonjour, je m'appelle Dory Beaufils et je suis en spécialité théâtre. J'ai commencé en seconde.
D'accord.
Et je suis en terminale.
Ok.
Bonjour, je m'appelle Jeanne Beuvier et comme Dory, j'ai commencé en seconde et aujourd'hui, je suis en terminale.
D'accord, et on retrouve notre manchot qui fait aussi du théâtre. C'est Il est partout.
Partout. Donc, je m'appelle Étienne Chantaro, je suis en terminale L et je fais le théâtre aussi.
D'accord, est-ce que Dory ou Jeanne pourraient présenter la section?
On fait du théâtre, on fait des exercices de groupe afin de se connaître un peu et de réussir à jouer ensuite.
D'accord.
Et en terminale, on a une liste d'œuvres imposées. Donc on les travaille ensemble, on choisit les scènes selon un thème et on joue, on répète pour mieux jouer, pour mieux exprimer les idées.
Alors, puisque vous êtes au lycée et que l'objectif c'est le bac, est-ce que le théâtre rentre un petit peu dans cet objectif du baccalauréat?
Mmh, oui.
Alors, comment vous êtes évalué, comment vous êtes noté par rapport à ça?
On a un dossier à faire. Donc le dossier, ça se fait au fur et à mesure pendant l'année. On doit faire des analyses sur les spectacles qu'on a vus avec la Logrin. Et on doit faire aussi un parcours perso.
D'accord.
Donc ça consiste à prendre un thème dans le théâtre et à approfondir dessus, un interview, etc. etc. Et on a quoi déjà aussi?
On a un écrit, ce qu'on va jouer dans l'année, en fait, c'est une préparation pour le bac. On va jouer devant un jury de 2 personnes, un professeur et une intervenante. Et on aura aussi un écrit, voilà.
Ok.
Ouais. Vous vous êtes produit 2 fois cette semaine, vous pouvez nous en parler, ça s'est bien passé?
Oui, c'était super.
Ouais.
Ouais.
Oui, on a joué, mercredi soir à 19h. Oui, mercredi soir à 19h au théâtre Nicolas Pesquine. On a aussi joué hier matin à 10h au théâtre Nicolas Pesquine. Donc la séance à 19h était plutôt pour la famille ou ceux qui voulaient voir, tout simplement. Et c'était plutôt scolaire pour hier à 10h.
Donc pour les élèves en fait, du lycée, c'est ça?
C'est ça. Mais d'ailleurs aussi, il me semble qu'il y avait des collégiens dans la salle.
D'accord.
Ouais, il y avait des troisièmes.
Pour faire la pub.
Ok. Ah, pour la FEP, c'est-à-dire pour motiver des élèves de troisième à s'inscrire dans la section quand ils arriveraient au lycée, c'est ça?
Ouais.
Oui. D'accord.
Pour leur faire voir un peu de théâtre aussi.
Ouais, joué par des gens qui sont pas si éloignés qu'eux, en fait.
Voilà.
Peut-être. Ok.
Et de quoi parle votre pièce de théâtre?
C'est ce que je disais, en fait, il y a 3 pièces. Parce qu'on a fait un spectacle, mais c'est surtout une épreuve de bac à la base. Donc c'est pas un spectacle comme les autres. On a fait Figaro, donc les 3 pièces de Beaumarchais plus de Odin von Horvath. Ensuite, on a fait
Illusion comique.
Et là, on n'a pas fini, mais la prochaine pièce qu'on est en train de faire, là, c'est Les Bacchantes. Non, pas du tout.
C'est Britannicus.
C'est Britannicus.
D'accord.
Et entre les deux, il y avait les premières qui jouaient juste La fin du monde de Jean de Lagarce.
D'accord.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste vraiment le travail de comédien dans le théâtre? Enfin, vous êtes des lycéens, mais à peu près.
Comment on apprend à être comédien? C'est la question, en fait, un petit peu. Comment vous travaillez ce métier, presque, c'est un métier à part entière. Comment vous travaillez, en fait?
Je pense que c'est un travail du texte.
Oui, il n'y a pas que ça.
Oui.
Alors, du coup, on commence par toi, Jeanne. Du coup, tu dis, pour toi, l'important, c'est le texte.
Oui, enfin, je pense que quand on comprend le texte, on peut mieux jouer. Après, si on comprend juste le texte, on ne peut pas non plus tout faire, mais... Il y a d'abord un travail de texte, l'analyse des personnages, comment on sent les personnages, ce qu'ils représentent pour nous, pourquoi ils sont sur scène, qu'est-ce qu'on veut montrer en fait, qu'est-ce qu'on veut donner.
Et toi Dorit, t'avais l'air pas tout à fait d'accord, t'avais un autre point de vue sur la question?
On travaille l'intonation, le comportement physique aussi, et voilà. réussir à porter notre voix et faire confiance aux autres aussi, parce que c'est surtout un travail de groupe.
D'accord. Tu voulais ajouter quelque chose, toi, par rapport à ça? Comment on travaille? Comment on devient comédien? Comment ça se travaille?
Le métier de comédien professionnel?
Non, pas forcément, mais en tout cas, vous, comment vous devenez des comédiens? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas inné, qui s'acquiert par le travail et l'expérience. Comment toi, tu as le sentiment d'être devenu ou de devenir comédien?
Bah, c'est de l'expérience, c'est de l'apprentissage. C'est pas inné, il y a des qualités qu'on a qui sont innées, par exemple l'aisance sur scène, la voix, certains ont des voix plus innées que d'autres. Mais après, c'est.
Après, ça se travaille.
Voilà.
D'accord.
Tout se travaille et s'acquiert au fur et à mesure.
Et puis il y a aussi peut-être de l'expérimentation, d'essayer des choses et puis de dire non, ça marche pas, je garde pas.
Ouais, ça, c'est tout le temps ça en fait, le théâtre. Ouais. On essaye et puis si ça marche pas, plutôt que de formuler les idées, on essaye et puis. Tant qu'on n'a pas signé, on ne pourra pas savoir si ça marche.
Ok.
Et on en revient au texte, vous faites comment pour apprendre vos textes? Enfin, comment vous arrivez à retenir toutes les lignes?
On doit les apprendre à plat pour éviter d'avoir une mélodie en le disant. Sinon, après, c'est difficile d'en sortir.
Alors, quand tu parles de l'apprendre à plat, tu peux nous expliquer? Parce que ça, c'est un terme technique du théâtre.
Bah, on essaye de ne pas donner d'intonation de base au texte quand on l'apprend.
C'est neutre.
D'accord.
Parce que si on donne déjà des émotions, ça va pas. On sera bloqué dans ça. Si ça passe pas.
On pourra pas jouer autrement.
Ok.
Enfin, ça sera difficile, quoi.
Alors, je pense que la question, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour retenir autant de textes? C'est le travail sur la mémoire. Comment. Est-ce que vous avez des trucs ou est-ce que c'est juste de l'exercice, en fait?
C'est. Déjà, faut le comprendre. C'est. On peut retenir un texte qu'on n'a pas compris. Mais si on le comprend déjà, c'est déjà beaucoup plus facile d'apprendre.
Ouais, ça aide.
Voilà. Et après, le lire, le relire, c'est beaucoup de répétition. Et l'apprendre avec une mélodie, ça peut s'apprendre. Mais après, il faut faire attention parce que la mélodie peut rester,
dans le jeu.
Voilà, c'est ça.
Mais après, c'est du par cœur, le texte.
C'est ça.
Faut juste comprendre ce qu'on dit et écouter les autres après quand on joue aussi.
Ok.
D'accord. Et qu'est-ce que ça apporte personnellement le théâtre, confiance en soi, mémoire
Oui, c'est sûr. Quand on fait du théâtre, après à l'oral, en cours, ou si on a des oraux, c'est plus simple. Mais je trouve que le théâtre, ce que ça apporte, c'est surtout un sentiment de pouvoir faire n'importe quoi en fait. Il n'y a pas de jugement moral quand on est sur scène. On peut être le pire des méchants, on peut être vraiment une personne mauvaise, c'est pas grave, on le fait jusqu'au bout. On a droit d'être mauvais sur scène, mais d'être bien aussi. On peut être tout et n'importe quoi, et ça, c'est génial.
Ça permet aussi de se défouler de ce qu'on n'est pas d'habitude.
Ok.
Et vous, pourquoi vous faites du théâtre? Enfin, pourquoi vous êtes lancé dans le théâtre et pas autre chose?
Moi, en seconde, j'ai essayé l'option. Et ça m'a plu, du coup j'ai continué, tout simplement. J'ai voulu découvrir ce que c'était et j'ai aimé.
Pourquoi tu as voulu faire du théâtre, toi?
Pour la première fois,
ouais.
Moi c'était à l'école primaire, je faisais beaucoup le clown en classe. Et un jour, notre professeur nous a donné des papiers et il disait, c'était écrit stage de clown. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Et en fait, il s'est avéré que le clown, c'est du théâtre. Et du coup, c'est là donc que tout a commencé pour moi.
Ok, et toi, Jeanne?
Moi, je faisais toujours des scènes chez moi. Mes parents en ont eu marre, ils ont dit « Jeanne, fais du théâtre, fais un truc. tu fais trop de bruit à la maison. » Du coup, j'ai essayé.
Et du coup, vous avez commencé toutes les deux en seconde et toi en primaire, du coup?
Exactement.
Non, j'ai commencé un peu plus tôt. Enfin, je faisais dans une troupe amateur. Et puis quand je suis arrivée en seconde, j'ai aussi fait le concours. Pardon, désolée. J'ai aussi fait avec le conservatoire, du coup, avec Étienne.
Ok.
Et après le lycée, ça va vous servir votre expérience de théâtre? Vous allez continuer dans ça ou...
Oui, moi j'aimerais continuer dans le théâtre.
Moi je vais arrêter, mais j'ai beaucoup aimé faire du théâtre.
Moi aussi je compte continuer.
D'accord. Ok.
Merci, c'est tout.
Merci à vous pour ce temps-là,
oui.
Pour le temps que vous avez consacré.
Merci.
Nous, on va continuer le programme de l'après-midi, parce qu'on fait que commencer.
Oui.
Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe après
Alors, cette année, la FLAC a été l'occasion pour une partie de notre classe de travailler sur la lecture radiophonique. de nouvelles. Et aujourd'hui, Alice va nous présenter ce projet. Donc bonjour Alice.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Très bien.
Donc moi aujourd'hui, je voudrais te demander si tu pourrais nous expliquer en quelques mots le projet que vous avez réalisé avec tes camarades.
Eh bien, pendant l'année, on a étudié des nouvelles de Maupassant et on les a enregistrées, on a ajouté des effets et on a tout monté.
D'accord. Donc, merci. Et je voudrais aussi savoir ce que tu en as pensé de ton côté.
J'ai trouvé ça très enrichissant. J'ai appris à me servir de logiciels. J'ai appris à tenir un micro. J'ai appris beaucoup de choses.
Et t'as pris du plaisir en faisant ce projet ou...
Oui, oui.
Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plus plu ou...
J'ai bien aimé quand on enregistrait les voix.
D'accord. Bon, merci à toi. Et on va écouter le résultat avec Alice, Antoine, Chloé et Sarah. Et la nouvelle, c'est la parure de Maupassant.
C'était une de ces jolies et charmantes filles, née, comme par erreur du destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée, par un homme riche et distingué. Elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée. Car les femmes n'ont point de caste ni de race. Leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames. Elles souffraient sans cesse, se sentant nées pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elles souffraient de pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses dont une femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturaient, l'indignaient. La vue de la petite Bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes, capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze et aux deux grands valets en culottes courtes qui dorment dans les larges fauteuils, assoupis par la chaleur lourde de la calofière. Elle songeait aux grands salons vêtus de soie ancienne, aux meubles fins portant des bibelots inestimables, et aux petits salons coquets, parfumés, faits pour la causerie de 5 heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés dont toutes les femmes envient et désirent l'attention.
Quand elle s'asseyait pour dîner, devant la table ronde, couverte d'une nappe de 3 jours en face de son mari, qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté « Ah, le bon pot-au-feu, je ne sais rien de meilleur que cela !» Elle songeait aux dîners fins, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges au milieu d'une forêt de féeries. Elle songeait aux plats exquis, servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de gelinotte. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien. Et elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eut tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu'elle ne voulait plus aller voir tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse.
Or, un soir, son mari rentra, l'air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe.
Tiens! « Voici quelque chose pour toi. »
Elle déchira vivement le papier et en tira une carte imprimée qui portait ces mots.
« Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau prient Monsieur et Madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. »
Au lieu d'être ravie comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table, murmurant.
« Que veux-tu que je fasse de cela ?»«
Mais ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais et c'est une occasion, cela une belle. » J'ai eu une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut, c'est très recherché. Et on n'en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel.
Elle le regardait d'un œil irrité et elle déclara avec impatience.
Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là?
Il n'y avait pas songé, il balbutia.
Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi.
Il se tut, stupéfait et perdu, en voyant que sa femme pleurait. Deux grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux, vers les coins de la bouche. Il bégaya.
« Mais qu'as-tu ?»
Mais par un effort violent, elle avait dompté sa peine et elle répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides.
« Rien, seulement je n'ai pas de toilette et par conséquent, je ne peux aller à cette fête. » Donne ta carte à quelques collègues dont la femme sera mieux nippée que moi. »
Il était désolé. Il reprit.
« Voyons, Mathilde, combien cela coûterait-il? Une toilette convenable qui pourrait te servir encore en d'autres occasions. Quelque chose de très simple. »
Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle pourrait demander, sans s'attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis économe. Enfin, elle répondit en hésitant.
« Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais arriver. »
Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse, l'été suivant, dans la plaine de Nanterre, avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes, par là le dimanche. Il dit cependant.
« Soit, je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. »
Le jour de la fête approchait, et Madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant. Son mari lui dit un soir.
« Qu'as-tu ? Voyons, tu es toute drôle depuis 3 jours. »
Et elle répondit.
« Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à me mettre sur moi. J'aurai l'air misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. »
Il reprit.
« Tu mettras des fleurs naturelles, c'est très chic en cette saison-ci. Pour 10 francs, tu auras 2 ou 3 roses magnifiques. »
Elle n'était point convaincue.
« Non, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. »
Mais son mari s'écria.
« Que tu es bête ! Va trouver ton amie Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez liée avec elle pour faire cela. »
Elle poussa un cri de joie.
« C'est vrai, je n'y avais point pensé. »
Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l'apporta, l'ouvrit et dit à Madame Loisel.
« Choisis, ma chère. »
Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, or et pierreries d'un admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait, ne pouvait se décider à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours
« Tu n'as plus rien d'autre ?»«
Mais si, cherche. Je ne sais pas ce qui peut te plaire. »
Tout à coup, elle découvrit dans une boîte de satin noir une superbe rivière de diamants, et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré. Ses mains tremblaient en la prenant. Elle l'attacha autour de sa gorge, sur sa robe montante, et demeura en extase devant elle-même. Puis elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse.
« Peux-tu me prêter cela ? Rien que cela ?»«
Mais oui, certainement. »
Elle sauta au cou de son amie, l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor.
Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés, de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec 3 autres messieurs, dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie, modestes vêtements de la vie ordinaire, dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette du bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir, pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches fourrures. Loisel la retenait.
« Attends donc, tu vas attraper froid dehors, je vais appeler un fiacre. »
Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture et ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer de loin. Ils descendaient vers la Seine désespérés, grelottant. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s'ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, et ils montèrent tristement chez eux. C'était fini pour elle, et il songeait, lui, qu'il faudrait être au ministère à 10 heures. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppée les épaules, devant la glace, afin de se voir encore une fois dans sa gloire.
Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda.
« Qu'est-ce que tu as ?»
Elle se tourna vers lui, affolée.
« Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. »
Il se dressa, éperdu.
« Quoi ? Comment ? Ce n'est pas possible !»
Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Ils demandaient.
« Tu es sûr que tu ne l'avais encore en quittant le bal ? »
Oui, je l'ai touché dans le vestibule du ministère.
Mais si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Elle doit être dans le fiacre.
Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro ?
Non. Et toi, tu ne l'as pas regardé ?
Non.
Ils se contemplèrent, atterrés. Enfin, Loisel se rhabilla.
Je vais refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne la retrouvais pas.
Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7h. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense, aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour dans le même état d'effarement, devant cet affreux désastre. Loisel revint le soir, avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien découvert.
Il faut écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner.
Elle écrivit sous sa dictée. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara.
Il faut aviser à remplacer ce bijou.
Ils prirent, le lendemain, la boîte qui l'avait renfermée et se rendirent chez le geôlier dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres.
Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin.
Alors, ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous deux de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent, dans une boutique du Palais Royal, un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On leur laisserait à 36 000. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant 3 jours. Et ils firent condition qu'on le reprendrait pour 34 000 francs si le premier était retrouvé avant la fin de février. Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissé son père. Il emprunterait le reste. Il emprunta, demandant 1 000 francs à l'un, 500 à l'autre, 5 louis par-ci, 3 louis par-là. Il fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir même s'il pourrait y faire honneur. Et, épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui allait s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle en déposant sur le comptoir du marchand 36 000 francs. Quand Madame Loisel reporta la parure à Madame Forestier, celle-ci lui dit d'un air froissé.
Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin.
Elle n'ouvrit pas l'écrin, ce que redoutait son amie. Si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait-elle pensé ? Qu'aurait-elle dit ? Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse ?
Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, d'ailleurs, tout d'un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle payerait. On renvoya la bonne. On changea de logement. On loua sous les toits une mansarde. Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises, les torchons, qu'elle faisait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue chaque matin les ordures et monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. Et, vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injurié, défendant sou à sou son misérable argent. Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d'un commerçant. Et la nuit, souvent, il faisait de la copie à 5 sous la page. Et cette vie dura 10 ans. Au bout de 10 ans, ils avaient tout restitué. Avec le taux de l'usure, de l'accumulation, des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres. Mal peignée, avec les jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haut, lavait à grande eau les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait auprès de la fenêtre et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure ? Qui sait ? Qui sait ? Comme la vie est singulière, changeante. Comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver.
Or, un dimanche matin,
Comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler ? Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas ? Elle s'approcha.
Bonjour, Jeanne.
L'autre ne la reconnaissait point, s'étonnant d'être appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise. Elle balbutia.
Mais, madame, je ne sais pas, vous devez vous tromper ?
Non, je suis Madame Loisel.
Son amie poussa un cri.
Oh, ma pauvre Mathilde ! Comme tu as changé !
Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je t'ai vue, et bien des misères, et cela à cause de toi.
De moi ? Comment ça ?
Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère ?
Oui, eh bien ?
Eh bien, je l'ai perdue.
Comment ? Puisque tu me l'as rapportée ?
Je t'en ai rapporté une autre, toute pareille, et voilà 10 ans que nous la payons. Tu comprends que ça n'était pas aisé pour nous, qui n'avions rien. Enfin, c'est fini et je suis rudement contente.
Madame Forestier s'était arrêtée.
Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne ?
Oui, tu ne t'en étais même pas aperçue, hein ? Elle était bien pareille.
Et elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. Madame Forestier, fort émue, lui prit les deux mains.
Oh, ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse. Elle valait au plus 500 francs.